aux vertus des et aux valeurs de la chrétienté en Europe. Donc on fait un petit bond de 400 ans en arrière. Et le 17 février 1600, sur un bûcher, cramé Giordano Bruno à Rome. Il est brûlé vif par l'Inquisition pour avoir refusé d'abjurer ses idées antidogmatiques et rationalistes. Cet individu était né 52 ans plus tôt en Italie. Il a d'abord été moine dominicain et s'est mis à écrire de nombreux ouvrages philosophiques qui lui ont valu un procès en hérésie. Du coup, il s'exile à Genève, parcourt l'Europe tout en enseignant ses idées pour lesquelles il va se battre jusqu'au bout. L'Église, elle, le poursuivra sans relâche. Il sera extradé de Venise et livré au Saint-Office. Le Saint-Office le condamnera à être brûlé vif et en fera un martyr de la libre pensée. Parmi les livres qu'il a écrits, on peut citer De la cause, du principe et de l'unité. Voilà. Tout ceci pour rappeler que l'Église ne tolère pas l'hérésie, qu'elle est capable d'employer des moyens assez impressionnants pour la combattre, et qu'elle est capable aussi, elle l'a déjà prouvé dans le passé, de s'allier aux politiques qui l'arrangent pour mater toute tentative de pensée libre et d'exploration de l'humain.
C'est peut-être à moi, puisque, eh bien, moi, il va s'agir du 19e et il va s'agir également d'une naissance. Donc, le 14 février, précisément, 1877, naît Julia Bertrand. Alors, Julia Bertrand est une institutrice, militante anarchiste, antimilitariste, féministe et libre penseuse. Elle est née donc le 14 février dans les Vosges. Elle fut déléguée au Congrès international des libres penseurs, tenu à Paris, du 3 au 7 septembre 1905. Elle collabore au journal féministe La Femme Affranchie, puis au journal La Vrille, publié à Épinal par l'anarchiste Victor Lauquier. Inscrite au carnet B, c'est le fichier des antimilitaristes. Elle est arrêtée le 21 août 1914 et envoyée dans un camp. Suite à une campagne de protestation, elle est libérée le 18 février 1915, mais révoquée de l'enseignement. Elle part alors exercer à La Ruche de Sébastien Faure, donc c'est une école, jusqu'à sa fermeture en novembre 1917. Julia n'est réintégrée dans l'enseignement qu'en 1925. Elle participe à la presse anarchiste de l'époque, alors L'En Dehors, L'Idée Libre, Le Libertaire, etc. Elle milite également contre la vivisection, ainsi qu'à la Ligue d'Action Anticatholique. En 1944, son logement à Noisy-le-Sec, région parisienne, est détruit par les bombardements alliés. Voilà. Une vie bien bien remplie, bien intéressante. Je vais quand même vous donner la réponse que va faire Julia Bertrand en réponse à une lettre du préfet qu'il a révoquée pour avoir manifesté, entre guillemets, ses sympathies pour l'antimilitarisme et son admiration pour la doctrine anarchiste. Alors elle va lui répondre. Je ne croirai jamais que c'est un crime d'aimer une doctrine de laquelle s'honorent d'honnêtes savants, de sincères grands hommes, comme Élisée Reclus et Pierre Kropotkin. Bon, Élisée Reclus, Pierre Kropotkin, bon, je comprends son admiration. Par contre, je pense que la doctrine a une valeur au-delà des hommes et des individus, mais bien parce qu'elle a du sens pour l'ensemble de l'humanité. Et bon. Mais enfin, nul n'est tenu d'être toujours parfait, n'est-ce pas? Loin, loin de là. Et voilà pour la vie de Julia Bertrand.
Alors, le 11 février 1904, nous annonçons la mort de Jean-Pierre Michel, dit Élie Reclus, à Ixelles, près de Bruxelles. Il est coopératiste, journaliste, communard, anarchiste et ethnologue. C'est le fils d'un pasteur protestant, donc c'est le frère de son frère aîné, Élisée Reclus. Il est né, lui, le 16 juin 1827 à Sainte-Foy-la-Grande, donc pas très loin d'ici, en Gironde. En 1840, il est envoyé faire ses études dans une communauté des frères moraves, alors je vais pas garantir la prononciation, à Neuwied sur le Rhin. Il poursuit ensuite des études de théologie à Genève, à Montauban et à Strasbourg, où il est ordonné pasteur, mais il démissionnera aussitôt. En 1851, il tente vainement de manifester contre le coup d'état de Napoléon, puis s'exile en Angleterre avec Élisée, où il trouve un emploi de précepteur. Il est en contact avec les exilés, il rencontre Ernest Cœur de Roy. En 1855, donc après son amnistie, il rentre en France et il se marie en 1856 avec une de ses cousines, Noémie, et il travaillera un temps pour la Banque du Crédit Mobilier, qui est un établissement qui a été fondé par des Saint-Simoniens. Il se passionnera pour les œuvres de Fourier et partagera son appartement avec Élisée et sa compagne. En 1860, lors d'un voyage d'études avec son frère, il chute sur la pente d'un glacier et restera handicapé de la main droite. Il fréquentera de nombreux socialistes révolutionnaires, il rencontre Proudhon, travaille comme correspondant du journal russe Diello. En 1866, il est administrateur de la Société du Crédit au Travail, destinée à favoriser la création de coopératives de production, de consommation ou de crédit. Il animera également diverses revues, dont l'Association, qui est un bulletin international des sociétés coopérativistes. En 1865, il adhère à l'Alliance de la démocratie sociale qui a été créée par Bakounine et il est, en 1867, le responsable français du journal de la Ligue de la Paix et de la Liberté. Il est avec sa compagne Noémie, son frère Paul et André Léo, le signataire des statuts de la Société de revendication des droits de la femme. En 1868, il se rend en Espagne avec Aristide Rey et Giuseppe Fanelli, mais la propagande qu'il mène, jugée trop peu révolutionnaire au goût de Bakounine, provoquera une brouille avec ce dernier. Le 4 septembre 1870, il prend part aux manifestations qui précipiteront la chute de l'Empire et il collaborera ensuite à la République des travailleurs, organe de la section des Batignolles de l'AIT. Pendant la Commune, il est brancardier de la Garde nationale, puis chargé de réorganiser l'enseignement primaire avant d'être nommé directeur de la Bibliothèque nationale qu'il sauvegardera. Il parvient à se cacher de la répression versaillaise et à se réfugier à Zurich. En 1876, il part en Amérique où il rencontre Benjamin Tucker, mais après une tournée d'études, il revient séjourner 2 ans en Angleterre avant de rentrer en France, là encore après l'amnistie. On a déjà vu ça dans sa vie. Il travaille comme bibliothécaire et collabore à de nombreuses revues de sciences et d'anthropologie, mais aussi libertaires, comme l'Humanité Nouvelle. Ses travaux d'ethnologie, en particulier les primitifs d'Australie parus en 1894, ne lui éviteront pas les persécutions policières en relation avec l'attentat de Vaillant. Il quitte alors la France pour la Belgique, où il accepte une chaire de mythologie comparée à l'Université Nouvelle de Bruxelles. Il est aussi l'auteur de La Commune de Paris au jour le jour, qui nous rapproche aussi du thème de la soirée.
finiront égarés à la
Et oui, vous écoutiez donc tout à l'heure un morceau d'un disque assez vieux, Ça branle dans le manche, donc François Tusk au piano sur des moments de piano solo sur l'histoire du mouvement ouvrier, avec, on a pu entendre en musique de fond l'éphéméride Elle n'est pas morte, puis Les Canuts, nous avons fini sur La Semaine sanglante et nous avons repris avec La Semaine sanglante dans une version plus contemporaine par l'Orchestre Poétique d'Avant-Guerre, OPA, bien connu sur Bordeaux.
Qui était nos invités il y a un mois.
Un mois à peu près.
Voilà.
Bon, il faut dire que depuis quelque temps, on a abandonné la numérotation des émissions. Oui. On a dû s'arrêter vers la 37e. On ne sait plus où on en est maintenant. Non, là, mais bon, mais on sait qu'on est passé au-delà de 37 émissions. Et donc, voilà, vous redis, vous écoutez Achaïra en direct sur la Clé des Ondes 90.1. Achaïra, une émission animée par le Cercle Jean Baruet de la Fédération Anarchiste, que vous pouvez joindre par mail à l'émission, à l'adresse cercle-jean-baruet@fédération-anarchiste.org, avec les lettres qui conviennent bien sur Internet, donc pas d'accent. Sinon, ça va à la catastrophe. Vous pouvez téléphoner pendant l'émission au 05 56 50 69 99 et bien voir un certain nombre d'informations sur le site www.lacdo.org. Donc on va vous présenter aujourd'hui le partenariat qu'on a fait avec un certain nombre d'amis que sont La Clé des Ondes, le cinéma Utopia, pour répondre à cette proposition du cinéma Utopia de faire quelque chose autour de la sortie de la version courte du film de Peter Watkins, version de 3h30, qui donc nous parle de la commune, de cette expérience humaine de la fin du 19e siècle, et déjà, dans le film, eh bien, on voit quelque chose d'actuel, à notre sens, et donc on a souhaité répondre positivement en invitant Claire Ozias pour un débat que vous verrez, auquel vous pourrez participer, auquel vous êtes invité à participer vendredi 15 février, donc demain soir à partir de 20h30 à l'Utopia. Mais ça commence déjà au moins une heure avant sur la place Camille Julien avec la chorale Le Cri du Peuple qui interviendra avec des chansons de la commune. Nous avons invité aussi, on reviendra pour vous expliquer qui est Claire Ozias, pourquoi on l'a invité. Et on a invité aussi Serge Géroyot qui vient de sortir, dans ses contre-champs de ma mémoire, un troisième tome et justement sur les chansons de la commune. Et donc lui interviendra un peu avant le film, il interviendra sûrement dans le débat, et il chantera samedi 16 février à la maison cantonale à partir de 20h. Et donc on vous invite à réserver vos places, aussi pour nous rassurer sur le fait que ça va, qu'il y aura du monde, et pour être sûr aussi, si jamais ça marche, à force d'interpeller, d'avoir une place. On va parler un petit peu. Flora, si tu veux.
Tu l'as dit. Nous, pourquoi on a retenu la proposition, c'est parce que il y a quelque chose qui, dans la commune, dans cet événement qui est la commune. En 1871, donc cet événement français, mais pas uniquement. Il y a quelque chose qui peut être réinterrogé par rapport à aujourd'hui, à notre actualité. Il y a des choses qui sont transposables, peut-être d'autres moins, c'est même sûr. Mais il y a des choses qui sont transposables. Et c'est pour ça que quand on a accepté la proposition, c'était pas en termes de commémoration, mais bien pour essayer de continuer à construire sur notre histoire, à construire en essayant de comprendre, en essayant d'aller toujours plus loin et en essayant de, eh bien, justement, de pouvoir entendre des gens qui se sont intéressés à des événements historiques, mais à cet événement historique plus précisément, comme précisément Claire Ozias. Voilà, bon, quoi dire d'autre ? Alors, bien sûr que bon, on a essayé de travailler un petit peu, puis de voir qu'est-ce qui, dans la commune, pourrait être actuel pourrait interroger là aujourd'hui ce qui se passe aujourd'hui pourrait servir de lumière d'éclairage. Mais avant ça, je pense que ce qui est important là maintenant tout de suite, c'est que peut-être que Claire tu nous expliques mais toi, la commune, comment tu présentes cet événement-là, quoi tu le rattaches, qu'est-ce que ça représente pour toi dans l'histoire, voilà.
Nous, on avait pensé à toi parce qu'on avait vu au moins deux ouvrages dans lesquels tu étais intervenu, Le Paris révolutionnaire et le travail sur Louise Michel, voilà. L'édition du Monde Libertaire. Donc c'était au moins par rapport à ces éléments-là, c'était dit intervenir.
Et un troisième.
Voilà, évidemment.
Qui s'appelle La Grève des Ovalistes, Lyon 1869, et qui est l'histoire de la grève, de la première grève de femmes ouvrières, de la soie, qui travaille en dessous des canuts, et qui sont la première corporation féminine à adhérer à la Première Internationale, et dont Bakounine emporte le mandat au congrès de Bâle, après s'être battu comme un chiffonnier avec Marx, et le mandat des ovalistes était disputé entre Marx et Bakounine. Mais loin de parler de ces ovalistes en grève, Bakounine est allé plutôt défendre sa problématique, comme on sait. Et donc c'est ainsi que la première entrée des femmes ouvrières dans la Première Internationale s'est traduite par un fiasco total et une surdité absolue des représentants politiques qui se sont occupés d'elle, fussent-ils Bakounine.
Ce qu'on peut dire aussi, c'est que cette opposition de l'époque, d'une certaine façon, même si c'est perdure toujours, parce que cette projection du film Watkins va se faire dans le cadre des 5e rencontres cinématographiques. La classe ouvrière, c'est pas du cinéma, et qui a l'initiative, une collaboration entre l'espace Marx et l'Utopia. Et donc, dans l'introduction de la brochure, il est présenté et le public est invité à se faire un point de vue contradictoire entre la projection qui a lieu les 15 et 16 février, où il y aura donc un point de vue libertaire sur la commune. Et donc, on nous dit que la semaine suivante, la nouvelle projection qui aura lieu, les trois séquences le samedi, se fera avec un point de vue marxiste, puisqu'effectivement, le président des Amis de la Commune sera présent avec deux autres historiens qui ont un point de vue donc marxiste. Même si tous les textes qu'on voit nous disent que il y a très peu de marxistes qui ont participé réellement à la Commune, et que le texte de Marx, je crois, est postérieur à la Commune.
La guerre civile en France.
Alors bon, cette Commune, en quoi elle m'a intéressée, moi ? Ben d'abord parce que je me suis intéressée à partir de mai 68, que j'ai vécu comme barricadière à Lyon, aux événements similaires qui ont précédé ce que j'avais vécu. Donc, dans la vérité, c'est comme ça que s'est fait ma pensée à moi. Oui. D'historienne, puis ensuite devenue par métier historienne du mouvement ouvrier et plus spécialement du métier anarchiste, du mouvement anarchiste. À partir de là, je me suis intéressée notamment à la commune. Bon. Maintenant, cette commune, il va de soi que c'est vrai que je ne la lis pas de la même façon que les histoires officielles, et pour beaucoup, beaucoup de raisons. À mon avis, elle commence le 4 septembre, lorsque Bakounine proclame la commune du haut de l'hôtel de ville de Lyon, et que le reste de la France proclame la République, et elle se termine, à mon avis, en décembre 1871, lorsque Louise Michel passe en procès devant le Conseil de guerre et est condamnée à la déportation en Nouvelle-Calédonie. Ce sont des dates que l'on pourrait dire arbitraires, mais qui, dans tous les cas de figure, ne recoupent aucunement le calendrier ordinaire de l'histoire classique. Mais vous avez bien compris que ce sont des dates qui ont des significations politiques, entre guillemets, importantes, et qui me paraissent ouvrir et fermer la période qui nous intéresse. Bon, alors, par contre, la présence de la guerre, qui est mise en avant notamment par les marxistes, puisque c'est l'un des grands soucis du texte de Marx, si j'ai bien compris, c'est-à-dire les visées de Bismarck dans l'aventure, ben, comme Allemand, c'est bien normal qu'il s'intéresse à Bismarck, c'est bien le moins, mais il se trouve que les révolutionnaires ont inauguré là, les communards, une chose qui se fera à nouveau dans d'autres révolutions, en 1917 et en 1936, à savoir transformer une guerre en révolution. Bon, c'est-à-dire les bolcheviques d'une part et les anarchistes espagnols d'autre part. Donc, c'est la première fois dans l'histoire qu'a lieu, à ma connaissance, et si je ne me trompe pas, la transformation d'une guerre en une révolution. Voilà. Donc, les communards, une fois qu'ils ont pris cette décision de transformer la guerre en révolution, après, leur problème, c'est la révolution, c'est plus la guerre. Bon. Or, il y a, si je ne me trompe pas, et si je me souviens bien, un communard très averti qui s'appelle Eugène Varlin, qui était exilé, je ne me rappelle plus, il se baladait quelque part en Suisse pendant l'été 1870, et considérant l'avance de la guerre contre la France, disait, mais que font donc ces internationalistes? Il était internationaliste. Mais à quoi pensent-ils donc, au lieu de se perdre leur temps avec les problèmes de nationalisme et de guerre, que ne décrète-t-il donc pas tout de suite la République? Donc il y avait des gens qui avaient quand même des vues un peu plus loin que le bout de leur nez. Ces textes datent de l'été 1870. Voilà. Bon. Voilà. Donc ensuite, pendant tout l'automne 1870, il y a des échauffourées diverses et variées au cours desquelles les républicains, les Jules,
oui,
Jules Favre, Jules Simon et compagnie, poursuivent la stratégie de la guerre contre la Prusse avec toujours aussi peu de succès militaire. Et pendant ce temps-là, le mouvement social s'organise et trépigne. Et Gustave le Français, par exemple, lui, il met l'accent sur un mouvement pré-communard du 31 octobre, où il dit « le 31 octobre, ça a failli être la Commune ». Alors pourquoi le 31 octobre? Parce que c'est le lendemain d'une défaite, une des innombrables défaites militaires, et que ceux qui deviendront des communards commencent à se dire qu'il serait temps de passer à la suite des événements. D'ailleurs, je crois que Louise Michel, à cette époque-là, fait un bref séjour en prison, mais il me semble. Enfin bref, tout ça nous amène à février, précisément. Janvier, février 1871, et février, pour tout homme républicain en France, c'est l'anniversaire de la révolution de 1848, dont vous n'avez pas parlé dans votre éphéméride, pour la raison qu'il n'y avait pas vraiment d'anarchistes, encore que ça se discute, pas de mouvement anarchiste en tout cas, puisque c'est 1876, mais des anarchistes c'est certain, s'il y avait au moins Proudhon, et même d'autres. Bon, enfin toujours est-il que février 1848 est l'événement le plus présent dans la mémoire des révolutionnaires, Blanqui et Barricadier et beaucoup d'autres à cette époque-là, et il est toujours vivant et ils sont toujours vivants. Et les féministes également ont été barricadières et pour certaines sont encore vivantes aussi. Voilà, et donc en fait dans la tête des communards, c'est l'anniversaire de février 1848. Bon. Et là, ça commence vraiment, les esprits s'échauffent beaucoup. Voilà. Donc après, on a, pour rester dans une scansion, on va dire, plus qu'une chronologie un peu succincte, bon, ben, on a le 18 mars, et là, la révolution est réalisée. C'est Louise Michel qui l'écrit, la révolution a été faite. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'êtres humains dans leur vie qui peuvent un jour dire « la révolution est faite ». Voilà. Et comme toutes les révolutions, elle a été faite un jour, quoi. Comme toutes celles qu'on connaît, ou à peu près. Hein. Bon, et après suivent donc deux mois d'exercice du pouvoir communaliste, tous ces fameux décrets qu'on va voir notamment dans le film de Watkins, hein, où ça se joue entre le peuple de Paris, les formes de délégation de pouvoir et de non-délégation de pouvoir qu'il donne, les décrets qui sont pris par les élus, etc., etc. Bon, tout ça, c'est le cœur du film de Watkins, et ça dure 2 mois. Et puis, 28 mai, 2 mois plus tard, boum, semaine sanglante. Les combats durent une semaine environ, et les communards sont écrasés dans le sang, d'une façon, dans une boucherie que l'on n'avait encore jamais vue, semble-t-il, de contre le peuple. Et c'est là que l'historien le plus fiable, à mon avis, de la Commune de Paris, Robert Toms, un Anglais, écrit qu'il s'agit de la première guerre dans l'histoire contemporaine contre des civils, car normalement l'armée est faite pour combattre des militaires, et là c'est une guerre contre des civils, où il réhabilite totalement les techniques de la guerre de rue qui ont été beaucoup dépréciées par les révolutionnaires eux-mêmes et bien entendu d'autres auteurs. Il réhabilite ça et surtout il explique comment Thiers a gagné. C'est pour ça que ce livre est vraiment un livre absolument exceptionnel. C'est le livre d'un historien et non pas d'un militant. Et il compte chaque pavé qui a été retiré de Paris par les barricadiers, le nombre de barricades, où elles étaient, combien, comment, qui ils étaient, et surtout comment Thiers a organisé son armée. Et c'est le premier stratège, on va dire, anti-révolutionnaire. De l'époque moderne. Il a réorganisé son armée en licenciant tous les soldats du 18 mars, tous virés, qui en déportation, qui retour dans sa campagne, et en recrutant en 2 mois une nouvelle armée et en la formant, avec du bourrage de crâne. Avec, bon, voilà, ça c'est le livre de Robert Toms qui s'appelle « La guerre contre Paris », et qui explique tout ça. Et ensuite, donc, c'est la défaite du prolétariat, si bien chantée par Clément, dans cette chanson éternelle et qui ressemble toujours aujourd'hui à une actualité cuisante. Sauf des mouchards et des gendarmes, on ne voit plus par nos chemins. C'est donc la chasse aux révolutionnaires. Alors, il y en a qui se cachent, les uns et les autres se cachent. Il y a ceux qui sont ramassés. Il y a Varlin qui est mis en pièces et défiguré. Il y a Nathalie Lemel qui échappe au massacre. Il y a Louise Michel qui se planque, mais... chose première dans l'histoire des persécutions, on prend sa mère à sa place. Oui, Staline n'a pas fait autre chose. C'est Thiers qui l'a inventé. On prend la famille à la place. Tu vois? Et elle avait avec sa mère des rapports tels que, évidemment, elle se rend pour la libérer. C'est logique. Bon. Théo Ferré est arrêté. Un grand nombre de gens sont arrêtés. Des centaines de milliers sont arrêtés. Bon, et sans compter les morts. Les chiffres des morts se discutent. On a dit 100 000, ça a été recompté. Et après, les historiens les plus minimalistes disent 20 000 morts. C'est probablement davantage. Robert Toms parle d'à peu près 30 000 morts. En tout cas, tout Paris recouvre les cadavres. Ça, c'est clair. Voilà. Et puis... Novembre 1871, Théo Ferré, Rossel et un troisième camarade sont fusillés. Louise Michel tombe dans une dépression profonde et totale et elle arrive à son procès devant la cour de guerre en décembre 1870. Elle n'a rien à perdre, elle n'a pas envie de vivre. Elle a vécu l'extase des barricades, elle a vécu l'homme qu'elle aimait a été assassiné, la révolution qu'elle aimait a été assassinée, elle n'a rien à perdre et c'est là qu'elle fait une déclaration, vous pouvez me tuer, je suis responsable de ci, de ça et du reste, y compris de ce qu'elle n'est pas. Et à ce moment-là, les esprits comme Victor Hugo et d'autres modérés, on va dire, une espèce de gauche bien pensante modérée, qui n'a pas été forcément barricadière, mais qui est tout de même humaniste et qui est tout de même scandalisée et horrifiée par le sang qui coule, se réveillent en entendant la voix de Louise Michel et pour eux c'est comme une survivante de tous ces morts. Et c'est là que la légende de Louise Michel commence. Voilà. Donc elle est donc condamnée à la déportation, Nouvelle-Calédonie, avec des centaines d'autres gens. Et il faut ajouter deux choses. D'abord, c'est qu'il y a la révolte de Kabylie en 1871 qui accompagne la Commune de Paris. Et que les Kabyles n'ont pas eu les mêmes droits que les communards, et notamment n'ont pas été amnistiés en 1880 par le gouvernement français. Ça, c'est un. Et c'est là que Louise Michel les rencontrera, notamment Mokrani, en Nouvelle-Calédonie, qui deviendront copains et qui demanderont à Louise Michel de venir en Algérie ensuite soutenir leur cause. Et l'autre chose, c'est... Oui, tous les étrangers dont on parle tout le temps, beaucoup d'Espagnols, déportés en Nouvelle-Calédonie, qui ont combattu dans la Révolution, dans la Commune. Et autre chose qui, à mon avis, est très importante pour nous à souligner, il va de soi que ça n'est pas la France rurale contre la France urbaine, premièrement. Ça n'est pas le premier mouvement insurrectionnel où il y a des femmes. Chaque fois qu'il y a une insurrection, il y a eu des femmes, depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours, sur toutes les barricades qu'on connaît. Mmh. Il y en avait beaucoup chez les Canuts de 1830 à Lyon, il y en avait beaucoup en 1848, il y en avait dans la Fronde, il y en a toujours eu, des femmes sur les barricades. Ça n'est donc pas la première fois que ça arrive. Par contre, il y a eu, et il faut le souligner, dans toute la France, de nombreuses communes, tentatives de communes ou manifestations en faveur de la Commune de Paris, y compris dans des patelins ruraux reculés. Par exemple, en Ariège, il y a eu, je ne sais plus où, à Foix, une manif qui a duré 2 heures, à hauteur des forces des gens. Mais voilà. Donc, c'est une lecture fausse, la lecture où l'on dit toujours « c'est la France rurale contre Paris qui éclaire le monde ». Paris n'a jamais éclairé autant le monde que lorsque le monde éclairait Paris. Donc, ça, c'est des choses qui, vraiment, il faut vraiment ne rien savoir à l'histoire d'un mouvement social pour penser des choses pareilles. Voilà. Il faut vraiment être un royaliste de l'ancien régime pour croire qu'il existe un pays avec des provinces, quoi. Voilà. Voilà. Donc, le mouvement ouvrier n'est pas un mouvement de Paris avec des provinces, tu vois. Voilà. Voilà ce que je suppose, je propose de démarrer comme débat.
Une petite musique ou...
Je sais pas, on va peut-être poursuivre un petit peu. Bon, moi, ce que j'ai cru comprendre, justement, c'est que 1848 était en lien... Alors, direct, c'est peut-être pas le terme, mais en tous les cas, qu'il y avait un lien certain entre le début de la Commune et puis les événements de 48 qui avaient été également sanglants.
Doublement. D'abord parce que les gens s'en souvenaient, les républicains avaient l'habitude de fêter l'anniversaire de 1848, de février, toujours, comme nous, la Commune. Ils le faisaient, ça de toute façon, et ça se précisait pendant février 1871, avec l'arrière-plan qu'il y avait cette guerre, cette famine, cette révolte contre l'Empire, cette révolte contre les républicains mous, etc. Ça se faisait. Mais l'autre chose, c'est que l'inauguration du 18 mars s'est faite avec la liquidation des deux généraux, Clément et Rossel, non ? Et Lecomte. Et Lecomte. Clément et Lecomte. Clément et Lecomte sont deux bouchers de 1848. Ce sont deux généraux assassins du peuple de Paris en 1848, des révolutionnaires de 1848. Et quand les communards l'ont reconnu dans les rues en train de pavaner comme un âne, ils l'ont pris, ils lui ont fait son sort parce que la mémoire révolutionnaire, elle existe et que les gens se souviennent d'une génération à l'autre, qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Donc le 18 mars dans l'après-midi, les communards de Montmartre fusillent les deux généraux bouchers de l'insurrection de 1848. Voilà. Donc il y a un lien direct.
Voilà. C'est sûr que... Enfin bon... sinon... j'ai lu ça, je ne sais plus trop... Tu pourras me dire si on peut le dire ou pas, mais que justement c'est une révolution qui s'est faite dans. Non violente en fait. Puisque quand ils ont pris les canuts. Non, pas sans devenir. Hein. non, pas la contre-révolution, parce que finalement Thiers Il a repris le pouvoir par la force. Bon, mais la révolution, vraiment, 18 mars et puis 26 mars, la proclamation. Bon, ben en fait, il n'y a pas eu de violence à part les deux généraux. Bon, d'accord, ils ont été tués, mais enfin bon, je veux dire, vu le nombre de personnes qui étaient en jeu à ce moment-là, finalement, ça s'est fait presque en douceur, cette prise de pouvoir, je veux dire. Pas la révolution,
je ne sais pas. Je ne sais pas si oui. On peut parler de prise de que ça s'est fait en douceur. Ce qu'on sait, c'est que ça s'est fait. C'est là aussi que est né le mythe et l'espoir de la crosse en l'air, puisque le 18 mars, la révolution a lieu et est gagnée à Montmartre, et c'est aussi à Montmartre qu'elle se perdra deux mois plus tard. Bon, et comment ça se passe? Ce que tu veux dire, c'est que en effet, il n'y a pas besoin d'effusion de sang ni de coups de canon pour que l'armée fraternise, l'armée parisienne, enfin la fraternise avec les communards, c'est-à-dire avec les gens, parce que le peuple c'est un peu abstrait, avec les gens qui sont dans la rue à Montmartre pour venir récupérer leurs canons. Puisqu'ils s'étaient cotisés, ça leur appartenait, Thiers voulait leur voler leurs canons, et donc ceux que l'on appellera les communards se sont massés autour de Montmartre pour défendre leurs propres canons, et à ce moment-là, on envoie l'armée contre eux, et l'armée ne tire pas, mais met la crosse en l'air. Voilà. Hein, parce que c'est des pourparlers, et qu'au bout du compte, ce sont des gens du peuple, comme eux. Voilà. Donc, à ce titre-là, on peut dire que les choses se sont passées sans effusion, hormis, comment dirais-je, le règlement d'une dette qui datait de 1848.
Oui, voilà. Voilà.
Voilà.
Ouais.
Ça, oui, on peut le dire comme ça. En revanche, après, les bagarres ont été très serrées. L'homme, quand même, l'ombre du révolutionnaire qui planait sur la commune, le grand homme de la commune, il n'y a pas eu qu'une grande femme, il y a eu aussi un grand homme qui a brillé par une présence particulièrement singulière, puisque c'est Blanqui, c'est-à-dire l'enfermé.
Sachant qu'il a été souvent en prison, même pendant la commune, il était tout le temps en prison, presque.
C'est-à-dire qu'il était présent dans la commune par son emprisonnement, grâce à qui on n'a pas eu de chef pour conduire la commune à son échec, et grâce à qui a eu lieu une vraie commune, c'est-à-dire une démocratie directe collective, puisqu'il n'y avait pas de chef, chose qui a été déplorée par les tenants ultérieurs d'une pensée unique. Mais voilà.
Et donc, s'il avait été là, tu penses qu'il aurait été un leader naturel?
S'il avait été là, il semblerait qu'il ait été assez autoritaire, pour vraisemblablement, mais avec des si. Enfin, on peut l'imaginer, parce que son livre « Instruction pour une prise d'armes », il faut le lire. C'est un livre de fou. C'est extraordinaire.
Extraordinaire. C'est-à-dire que le pouvoir disait qu'il valait mieux 100 hommes que Auguste Blanqui.
C'est pour ça que Thiers n'a pas voulu le lâcher. C'est un livre de fou. C'est-à-dire il a un sens de, comment dirais-je, une exigence de discipline et de perfection dans la discipline qui fait qu'il fallait être un robot pour pouvoir se conformer aux instructions de Blanqui, semble-t-il. Si tu le lis, tu vois qu'il manque un petit peu d'humanité. Mais qu'est-ce que tu veux? Il a passé 30 ans de sa vie en tôle. C'est un esprit extraordinaire. Bon. Enfin, toujours est-il qu'ils ont tous mis en œuvre, ils étaient beaucoup blanquistes, Théo Ferré était blanquiste, Louise Michel, au moment de l'assassinat de Victor Noir, elle porte le poignard sur elle en signe de ralliement des blanquistes, bon, etc. Elle n'était pas encore anarchiste, loin de là, à l'époque. Bon, bref, et donc, ils étaient tous blanquistes ou presque, et ils ont bien lu Blanqui, qui avait écrit « Comment construire des barricades », tu vois. Et ils avaient leur petit manuel de construction des barricades, et même un commissaire architecte des barricades, à l'hôtel de ville de Paris. Si tu vois les photos aujourd'hui des barricades, c'est des œuvres d'art, hein. Vraiment, c'est magnifique, hein. C'est vraiment, il n'y a pas un pavé qui dépasse, tout est parfait. Ah oui, oui, c'est absolument parfaitement bien construit, tout ça. Voilà. Mais oui, bien sûr que si Blanqui avait été actif et vivant parmi eux, évidemment que les événements auraient tourné autrement. Ouais.
Bon, et puis restera, on ne va peut-être pas tout débattre maintenant, mais restera la question quand même de la place des médias. Enfin, restera parmi vous, certainement beaucoup de choses. Mais il y a aussi cet aspect-là qui avait retenu notre attention. C'est-à-dire, et d'ailleurs, Peter Watkins le présente beaucoup.
On parle beaucoup, oui. Parle beaucoup. Vu qu'il y a une télévision versaillaise. Avec tous les journaux.
Et une télévision communarde.
Ouais.
Et de toute manière, à l'Utopia, nous avons tiré un article de. Qui est paru dans le plan B sur cette période-là, qui explique en 1871 les communards lancent un débat citoyen, faut-il interdire la presse bourgeoise ? Et donc, c'est Dominique Pinsol qui a écrit cet article pour la revue Le Plan B, un historien, et donc c'était la question du rapport de ce que disait le Figaro pour démoraliser la commune, enfin en tout cas dénigrer son action, quoi. Ce document-là sera disponible. On parlait déjà des mouchards à l'époque. Il y a aussi la question des acquis de la commune, peut-être un petit peu. Alors, acquis a deux sens, puisqu'il y a des acquis qui ne sont plus acquis. Mais il y a des acquis, donc les questions de la laïcité, puisqu'on apprend qu'à l'époque, déjà, la commune avait organisé la séparation de l'Église de l'État. Avait utilisé les églises comme des salles communales, un petit peu, puisque des réunions des clubs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? La question de l'éducation pour tous aussi, qui est présente dans la commune. Alors tout ça, c'est repris et peut-être déformé après.
Relations hommes-femmes aussi, à l'intérieur. Relations de pouvoir, hommes-femmes. Tout ça, c'est vrai qu'on les retrouve actuellement. Il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on peut faire des liens.
Le monde piété.
Voilà la question du clergé
qui a été le souci, pas seulement des communards, mais Marius Jacob aussi. Il a trouvé que le monde piété, il fallait rendre aux pauvres ce qu'on leur avait enlevé.
Mais j'ai eu la peine de mort aussi. Apparemment, ils ont détruit la guillotine.
Le devenir des ateliers ou entreprises dont les patrons avaient pris la fuite. Et comment les ouvriers allaient pouvoir
s'emparer de l'outil de travail et le gérer
eux-mêmes en autogestion. Donc là, avec tout l'acquis proudhonien aussi qui était derrière. C'est pas par hasard...
Un débat intéressant dans le film, je crois, c'est la question de l'égalité salariale. À un moment donné...
on parlait pas encore à l'époque. Non, ça c'est...
C'est le film,
ça. On s'en fout, ça. C'est intéressant, le débat est intéressant, mais c'est pas historique, parce qu'on parlait pas encore d'égalité des salaires entre les hommes et les femmes à l'époque. Mais ça fait rien. On en parle aujourd'hui.
Non, mais là, c'était... dans le film, c'était entre les apprentis et les... peut-être.
Salaire unique, oui. Oui, ça aussi, c'est un peu anticipé dans l'histoire, mais
ça fait rien. Aujourd'hui, c'est encore anticipé.
C'était quand même pas octroyé des gros salaires, tous ceux qui avaient pris des charges.
Oui, alors il y a les salaires, en effet, des élus de la commune. Ouais. Il est souligné bien qu'ils étaient peu payés. Ils s'étaient rémunérés très, très faiblement par rapport aux habitudes de la droite conservatrice ordinaire.
Y compris de nos jours, d'ailleurs.
Surtout.
Alors qu'ils venaient de doubler le traitement des instituteurs. Ouais. C'était d'autant plus méritoire, peut-être, de... C'est pas ordinaire, quoi.
Je crois qu'il y a eu des aumônes aussi... des pensions pour les veuves de guerre, des choses comme ça.
Oui.
Pas mal. Les loyers.
La réquisition des loyers.
Et puis cette fameuse question de la banque, qui certes n'a pas trouvé une heureuse issue sous la commune, mais a servi bien de leçon, en tout cas à Durruti, un peu plus tard. Par exemple.
De ne pas être trop...
quand on a le pouvoir, on a aussi le pouvoir sur la banque de l'État.
Que là, ils n'ont pas...
C'est la priorité de la question économique sur la question politique, quelque part. Oui. Enfin, c'est...
Ils n'ont pas osé mettre la main là-dessus, c'est-à-dire qu'ils étaient encore jeunes dans la politique et ils avaient des scrupules. C'était des gens prudes et honnêtes, comme Yvonne de Gaulle, quand elle mangeait une soupe à l'Élysée, elle l'écrivait dans le cahier. C'était pas le genre à s'en foutre plein les poches. Et donc, ils faisaient pareil, et à l'époque, ils ne savaient pas... enfin, bref, ils n'étaient pas corrompus.
Ouais. Je suis en train de regarder.
Non. C'est un morceau. Une petite.
Il y a eu la question des crèches. Ah. Ben oui, l'organisation des enfants, de la petite enfance. Les crèches.
Oui.
Oh.
Tout à fait, oui.
J'ai pas vu ça.
La question de l'intégration des étrangers, s'ils participent à la commune, ils sont.
Ouais. Bien sûr, la citoyenneté. Bien sûr. Bien sûr. Oui.
Qui apparemment ne fait pas débat d'après la... Enfin, je sais pas.
Pardon. Alors, c'est pas qu'il y a eu tout. Il n'y a pas forcément. Ils n'ont pas forcément fait le tour de la totalité de toutes les questions. Mais ils en ont quand même couvert beaucoup.
Alors qu'ils étaient assiégés, qu'il y avait quand même les Prusses. Non.
Mais oui, mais qu'est-ce que tu veux, c'est plus intéressant de transformer la société où tu vis qu'aller faire la guerre à des gens contre qui tu n'es pas ennemi.
Bien sûr.
Et alors, cette fameuse colonne Vendôme avec Courbet, c'était le symbole de l'inimitié entre les peuples napoléoniennes. Ils l'ont foutu par terre. D'ailleurs, si vous avez vu les photos, c'est dans une mise en scène très théâtrale. Hein, tout le monde s'était rassemblé autour, tu vois. Et ils l'ont foutu par terre parce que les peuples n'ont pas à faire la guerre à d'autres peuples qui leur ont rien fait. C'était leur proclamation aussi.
Alors c'est fou parce que, bon, en même temps... bon, je vais peut-être dire des bêtises, mais tant pis.
Lance-toi.
Je me laisse aller. Non, mais il y avait une question... Enfin, c'est beaucoup dit, en tous les cas, qu'il y a une question nationaliste. Dans cet événement, et en même temps se rend compte que bon, il y avait de l'internationalisme, qu'il y avait la destruction d'un symbole des gloires militaires qui étaient
beaucoup d'antimilitarisme.
Oui,
chez les communards, beaucoup d'antimilitarisme.
Oui, il y a la révolution de la conscription, je crois.
Oui, beaucoup d'antimilitarisme et beaucoup d'anticléricalisme, bien sûr. Alors là, c'était très 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 fort à cette époque-là.
Oui. Et donc, et quand même, on continue à dire qu'il y a du nationalisme dans la commune.
Mais parce que c'est les lectures traditionnelles, ça, de la commune. Si tu veux, c'est de la lecture, c'est des lectures, comment dirais-je, archaïques, anciennes, périmées, parce qu'elles se conforment à des œuvres théoriques qui ont mis l'accent fortes, qu'ils chérissent et dont ils se réclament, et qui ont mis l'accent sur ces aspects-là des choses. Mais ça ne signifie pas que... comment dirais-je, la question principale soit la question de la défense d'une nation contre l'envahisseur étranger. Ça, c'est une lecture idéologique, c'est un choix, c'est une conviction, c'est une croyance religieuse.
ça correspondrait presque plus au 4 septembre à ce moment-là. Le fait que...
Non. Même si pas. Tu veux, sous l'Empire, qu'elle était belle la République sous l'Empire, tout républicain... sous l'Empire, voulaient la République. Ils ont passé leur temps dans les clubs de 1852. Bon, le coup d'État de Napoléon le Petit. Les gens sont en exil, ou en tôle, ou en déportation. Ils attendent leur heure. 1864, c'est l'empereur a gagné ses premières conquêtes, financières, de banquier, premièrement, et antipopulaire, réactionnaire, conservatrice, et donc il commence à lâcher du mou parce que ça gronde. Et donc il y a la loi d'autorisation des coalitions, comme on dit, qui a en fait autorisé les réunions publiques à nouveau. Et donc c'est là que les mouvements ouvriers ont recommencé à se réunir publiquement. C'est aussi la date de la création de la première internationale à Londres, non pas par les gens qu'on dit, mais par qui a été préparée longtemps par des Saint-Simoniens, pour ne pas dire des fourriéristes, des proudhoniens, dont Tolin, qui était un ouvrier proudhonien, je ne sais plus ce qu'il avait comme métier, qui est allé siéger là-bas, à Première Internationale et qui a siégé également à l'Assemblée commune parlementaire. Bon, création de la Première Internationale en 1864. Et là, à partir de là, la fin des années 60, c'est monté, les conflits sociaux, etc. Là, c'est beaucoup monté. Bon, mais cette affaire de nationalisme, c'est une lecture.
Ouais,
c'est... Ils n'étaient pas plus nationalistes, ils ne l'étaient pas dans la Révolution française.
Non.
Ils ne l'étaient pas en 1830, ils ne l'étaient pas en 1848. Ils ont envoyé des lettres de fraternité, même via Lamartine, aux Polonais et de partout. Toutes les autres révolutions de 48, ils ne l'étaient pas plus, bien sûr, à la Commune. Ça, ce sont les nationalistes qui disent ça. Les gens à qui le concept de nation sert à quelque chose. Voilà. La révolution dans un seul pays, par exemple.
Oui.
Ou le socialisme dans un seul pays.
Faut-il donc pleurer en restant dans l'ombre et compter les noms des copains passés? Faut-il reculer et ne pas répondre face à la douleur des emprisonnés? Que revienne enfin ce temps où les têtes fleurissaient d'amour et de liberté, tant d'espérance. Que croule l'État et tous ses ministres, nous verrons alors les mains se serrer. Que crèvent les grands qui nous administrent, nous saurons aussi vivre sans papier. Merci à tous ceux du temps des cerises pour la mélodie qu'ils nous ont laissée et qu'ils nous pardonnent. Nous la chanterons pleine de révolte tant que les patrons voudront exister. Nous la chanterons toutes les saisons et jusqu'à la fin de leur société.
Allez, une petite devinette. Est-ce que vous savez qui est l'empereur Talonnette? Pour gagner une place.
Oh, ah oui.
Et qui, Marx, appelait-il le... je me suis vendu, là. Le nabo monstrueux.
Oui. Ça fait penser à des choses. Bien, alors...
Bon, mais personne n'a trouvé. Bien, on continue. Alors donc, on vous donne. On espère que ces discussions vous ont donné envie de venir continuer avec nous le débat. On n'a pas non plus peut-être évoqué les questions autour de la question du comité de salut public, les questions de démocratie, le conflit entre les quartiers. Démocratie directe, les nécessités du moment, le réalisme qui nécessite toujours une petite centralisation. Donc c'est les différents courants du mouvement socialiste ou mouvement social qui s'affrontent dans les débats à ce moment-là. Donc que l'on pourra évidemment continuer ces questions. Donc on vous rappelle, c'est demain soir. 19h30, 20h30 à l'Utopia, pour la première projection du film de La Commune de Peter Watkins, suivi d'un débat. Et demain, avec les suites des autres parties, demain après-midi, à l'Utopia aussi, toujours 14h30, 16h15, et à 20h, le récital de Sergio Gerullo, dont nous venons d'écouter un très très vieux disque, je crois, si je ne me suis pas trompé, non, c'est son premier disque, et me rappelle encore quand il jouait à Bordeaux pour les fêtes de l'Astille dans la fin des années 70. Il était passé à Bordeaux, mais c'était voilà, bon, mais c'est pas 1870, c'était 1970 quand même. On a beau jongler avec les siècles, faut pas exagérer. Bon, on a peut-être peut-être on peut dire aussi deux autres choses, un petit peu des clairs en dehors de la commune. Je sais que tu as travaillé sur d'autres sujets. Peut-être tu peux nous dire en particulier, j'ai vu que dans les questions du programme justement des rencontres cinématographiques, la classe ouvrière, c'est pas du cinéma. Il y a la question je sais pas comment on dit, gitans, roms, enfin des peuples qui bougent. Et apparemment, tu as quand même écrit pas mal sur ce sujet. C'est peut-être...
Oui, j'ai consacré beaucoup de temps avec, bien sûr, oui, avec les tziganes, oui, depuis 20 ans maintenant. C'est-à-dire qu'à la chute du mur de Berlin, je savais que la chute du communisme était quand même un événement mondial fondamental, que c'était la chute d'une époque historique. Eh ben, j'ai voulu aller voir ça de plus près, mais j'ai voulu aller voir ça à partir de personnages, en tout cas, qui ne me rappelleraient pas des pensées déjà prédigérées, tu vois. La constitution d'un état de droit ou d'une économie de marché, ça m'intéressait pas du tout, du tout. Donc, j'ai examiné ces affaires-là à partir de l'expérience des Roms. Donc, et j'ai trouvé un mouvement de Rome organisé en lutte pour leurs droits civiques et leur dignité sur le modèle beaucoup des Noirs américains, des leaders Roms, des pays de l'Est, etc., qui m'ont appris des choses extraordinaires. Et voilà, j'ai travaillé depuis 20 ans sur les questions des Roms, aussi bien là-bas qu'ici d'ailleurs. Et c'est comme ça que j'ai découvert qu'il y a des citoyens français qui ont perpétuellement l'armée sur le dos. Moi, je croyais que l'armée, c'était faite pour s'occuper des militaires, mais non. L'armée contre les civils, c'est la gendarmerie contre les gens du voyage français, par exemple. Des gens qui n'ont pas le droit de vote. Alors bon, c'est pas parce qu'on vote pas que on ne défend pas le droit à chacun de choisir de voter ou de ne pas voter. Etc., etc. Et en d'autres termes, une nature de persécution tout à fait inconnue de nous. De nous qui ne sommes pas tziganes et dont on n'a pas l'ombre du quart d'une idée de ce qui leur arrive. Et donc j'ai œuvré de toutes mes forces à faire entrer à la conscience des antifascistes, sans parler bien sûr des républicains parce que là ça n'entrera jamais, la réalité de ces proches qui sont à côté de nous et qu'il s'agit de ne pas oublier à leur triste sort. Mmh. Voilà.
Oui, mais non. Lire tes ouvrages, peut-être. Vu qu'il y en a un petit là, qui a un nom un peu bizarre.
Alors, il y en a un qui concerne le génocide tzigane, parce que je n'avais pas envie de m'intéresser exclusivement au génocide. Donc, d'abord, je me suis intéressée aux tziganes du communisme, en quelque sorte, qui ne sont pas du tout pareils que les tziganes du libéralisme. Par exemple, ils étaient tous athées. Ce qui n'est pas une mince affaire tout de même, etc. Ben, ils étaient tous athées dans le communisme, évidemment. Les femmes avortaient, etc. etc. À la fin, j'ai fini par consacrer tout de même un petit livre au génocide tzigane pendant la Deuxième Guerre mondiale. Génocide que les tziganes eux-mêmes, dans leur langue, qui s'appelle la langue romani, se dit samudaripen, c'est-à-dire ça veut dire tout. S-A, tout. Mudarel, ça veut dire meurtre, tuer, il tue. C'est la même racine que meurtre et murder en anglais. Meurtre, tuer, mudarel. Et ipen, c'est le substantif. Ça veut dire massacre. assassinat de masse. Mmh. Mais de masse, non seulement pour les tziganes, mais pour les autres. Voilà. Mmh. Donc le samoudaripen, c'est le terme précis en langue romanie que ne comprennent pas certains voyageurs français quand ils ne parlent plus leur langue, mais que comprennent très bien tous les Roms d'Europe de l'Est, qui signifie le génocide des tziganes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Et c'est à l'esprit frappeur et ça coûte 6 euros. Ouais.
Et l'ensemble des tziganes ont une langue qu'ils peuvent parler tous.
Tout à fait. Une fois que tu passes par-dessus les variations d'accent entre un Auvergnat, un Breton, un Alsacien, un Provençal, un Issard et un Gascon, tous ces gens-là ont pour langue vernaculaire le français, malgré toutes les oppressions étatiques faites contre les langues en question. Et finalement, avec un petit peu d'attention et d'ouïe, tu finis par comprendre ce qu'ils disent. Pour la langue romanie, c'est strictement la même chose. C'est une langue avec des variations dialectales.
D'accord.
Voilà.
Et mais ça, c'est une anecdote. Est-ce qu'ils sont touchés par la mesure de Sarkozy qui a un enfant par qui parraine chaque mort
de la Shoah?
Ah, c'est une bonne question, ça. Bah, il faudra demander à notre président s'ils sont inclus dans cette affaire. Oui, absolument. C'est une bonne question à poser à notre président. Oui, très bonne. Très, très bonne. Surtout que les enfants de tziganes...
A priori, c'est que pour les juifs. Hein. Je crois pas que c'est pour les autres.
Il y a 10 enfants de la Shoah, alors après, ouais. est-ce que le mot...
Ben après, c'est aux gens de la Shoah à décider s'ils veulent que ce terme soit étendu par extension à ceux qui en sont exclus, comme les tziganes. Voilà. C'est pas gagné, puisque la France, l'État français, refuse toujours de reconnaître la continuité de sa responsabilité dans la question de la persécution des gens dans la Deuxième Guerre mondiale et, pour ceux qui nous occupent là tout de suite, des tziganes. Mmh. Voilà. Et les petits-enfants de tziganes étaient souvent exterminés directement dans les chambres à gaz sans même être recensés sur les livrets, ce qui fait qu'ils sont d'une absolue invisibilité. Mmh.
Vous êtes bien sur la clé des ondes, 90.10, l'émission à Chaïra, du cercle Jean Barruet de la Fédération anarchiste. Et puis, qu'est-ce qu'on fait ?
Quelques petites nouvelles, peut-être.
Quelques nouvelles, oui.
Nouvelles, ouais. Vas-y.
Oui, donc... C'est des nouvelles de Grèce et plus précisément de la ville de Patras. Patras, c'est un port qui se situe sur la côte ouest. Alors, je ne sais pas si vous voyez la Grèce. Vous savez que au sud de la Grèce, il y a une partie qui est détachée, hein, qui est séparée de l'autre partie par le canal de Corinthe, je crois. Voilà. Et donc, dans cette bonne ville de Patras, depuis pas mal d'années, affluent des milliers d'immigrants qui viennent d'Afghanistan, et il y a aussi beaucoup de Kurdes. Et ces gens-là viennent au port de Patras avec l'espoir de se faire embarquer sur des bateaux en partance pour l'Italie. Le problème, c'est que les autorités locales ont du mal à les supporter. Donc ils essayent de maintenir le flot. Les gens donc s'installent tant bien que mal aux abords de la ville, créent un camp, enfin, des bidonvilles branlants. Ils sont souvent humiliés et persécutés par les autorités de la ville. Et durant le mois de janvier, ils ont reçu une notification que les élus locaux n'avaient pas osé signer, qui leur demandait de quitter leur campement. Et dès le lendemain, leur campement a été cerné par la police. Des manifestations de solidarité ont été organisées les jours suivants, mais ceci n'a pas empêché les autorités de détruire une partie du camp, le 23 janvier notamment. Malgré cela, personne n'aurait pu prédire ce qui allait suivre. Le jeudi 29, lors d'une action sans précédent, la vaste majorité des résidents du campement, en fait près de 1000 personnes se sont rassemblées pour une manifestation solidaire demandant que leurs droits à la dignité et à l'asile soient respectés. La manifestation a pris les autorités par surprise et les médias locaux ont rapporté que, à la suite de cette manifestation, la destruction du camp avait été reportée. Alors bien sûr, ce n'est pas une grande victoire, mais l'événement important, c'est que ces gens-là aient réussi à se mettre, à se regrouper ensemble et à manifester leur opposition à ce qui se passait et à revendiquer une dignité qui était bafouée par les autorités de cette ville. Voilà, une nouvelle de Grèce.
C'est-à-dire que la Grèce était un pays monoethnique. Ils ont eu beaucoup de mal à supporter la pluriethnicité qu'a impliqué la chute du mur. Comme première terre occidentale dans les Balkans, ils ont reçu soudain un afflux notamment de Rome, d'abord d'Albanie, mais aussi de Bulgarie. Et ils n'ont pas l'habitude de ça, c'était complètement exclu dans leur représentation. Et ça a été, et c'est encore en Grèce, un débat absolument qui bouleverse les mentalités, le fait qu'il faut être pluriethnique pour entrer dans l'Europe. Voilà. Et voilà.
C'est vrai qu'ils ont passé par rapport aux Turcs aussi, qui est peut-être assez lourd.
On va dire. Je voulais juste donner deux nouvelles. J'ai trouvé une brochure qui s'appelait La querelle du pouvoir d'achat, mais c'est une très vieille brochure des cahiers à contre-courant, donc, qui date du 20 mai 1954, mais on voit que le temps passe et les querelles et les questions sont toujours d'actualité. Et donc, je voulais signaler, comme ça, deux bouts de lutte sur ces questions-là. Mais on voit qu'elles sont nombreuses et on se demande pourquoi elles sont nombreuses et morcelées. Donc, à Marseille, alors qu'il y a eu une journée dans l'ensemble des supermarchés de grève des caissières qui sont payées moins de 900 euros pour un temps complet, alors on sait qu'elles sont payées temps partiel. Donc le 11 février, on était au 11e jour, puisque et donc aujourd'hui, on est le 14 février, a priori, on devrait être au 14e jour de grève pour la revendication salariale au supermarché Carrefour de Marseille. Donc, particulièrement intéressant, puisque la question de la grande distribution et de la distribution sont des secteurs qui sont les moins syndiqués, les plus difficilement jetables, où la qualification est peu importante. Et donc, il est particulièrement intéressant à la fois qu'il y ait eu ce mouvement national le 1er février et que, à un endroit, donc là, il se trouve que c'est à Marseille, ce mouvement ait perduré. À côté de ça, en Gironde, dans un autre secteur, c'est l'industrie. Mais depuis au moins le 10 janvier 2008, nous avons un mouvement quotidien de grève à la société Snagma Propulsion, donc ceux qui faisaient les moteurs de Ariane, donc qui se trouve au Royan. Et donc ce mouvement. De grève. Alors, c'est pas une grève totale, c'est une grève quotidienne en début de journée, tous les jours, menée donc par deux syndicats. L'accord syndical a été négocié par les autres organisations syndicales. Donc, c'est Sud et CGT qui appellent à la grève quotidiennement. Et à côté de ça, évidemment. Les dirigeants de cette entreprise font partie de ceux qui se sont octroyés 40% d'augmentation dans l'année 2007. Voilà. Cherché en 2006, les patrons se plaignaient de ne pas avoir été suffisamment augmentés. Mais en 2007, non. 77% des grands patrons ont eu une augmentation de plus de 40%. Alors qu'on voit effectivement que l'on trouve choquant de proposer des augmentations de quelques pourcentages du SMIC. Donc là, dans cette entreprise-là, alors je ne sais plus combien de milliers d'euros se sont octroyés, se partagent les dirigeants de ce groupe-là, Safran, enfin c'est la grosse industrie, et bien les salariés ont eu moins de 1% d'augmentation. Donc ils ne demandent pas à ce que l'accord soit dénoncé, mais ils font grève pour obtenir plus. Voilà. Et ben donc voilà, la question qui se pose, c'est effectivement aujourd'hui, alors que l'on sait que cette question est primordiale, qu'elle est capable effectivement d'unifier l'ensemble des salariés, pourquoi la réponse syndicale ne donne pas les moyens d'informer et de faire converger l'ensemble de ces luttes de façon à gagner ? Alors, pas non plus, comme on l'a vu, octobre un jour, novembre un jour, janvier un jour, ces grèves à répétition dont, qui montrent bien le mécontentement puisqu'elles sont suivies, mais qui ont comme seul effet, effectivement, en même temps, de décourager, puisque globalement, après ces journées massives, le résultat est nul.
Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est que les syndicats ont perdu le Nord, qu'ils n'ont plus aucun sens de leur raison d'être, et qu'ils feraient bien de relire leur classique d'il y a 200 ans, les chartistes, les anglais, les Knights of Labour, et de comprendre pourquoi ils ont été créés, parce qu'apparemment, ils l'ont oublié.
Eh oui, malheureusement.
Et puis, puisque les attaques sont multiples et variées, voici un autre type d'attaque que nous subissons aujourd'hui, et plus précisément aujourd'hui même, puisque aujourd'hui a été condamnée donc une personne, bon, il se trouve que c'est un militant dit anarchiste français, qui a été condamné donc 14 février 2008 à 800 euros d'amende pour avoir outragé en 2006 Nicolas Sarkozy en comparant sa politique en tant que ministre de l'Intérieur à celle de l'État français sous Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc il s'agit de Romain Dunant, 35 ans, militant du réseau Éducation sans frontières et appartenant à la CNT, qui avait adressé donc le 19 décembre 2006 un courriel au ministère de l'Intérieur dans lequel il demandait la libération d'un autre militant de RESF, donc Réseau Éducation Sans Frontières, placé en garde à vue pour s'être opposé à l'expulsion d'un parent d'élève sans papier. Dans le courriel adressé au ministre Nicolas Sarkozy, M. Dunant écrivait « Voilà donc Vichy qui revient. Pétain a donc oublié ses chiens. Il critiquait aussi une politique qu'il faut bien qualifier de raciste avant d'adresser ses salutations antifascistes au ministre. » Et ce courriel a valu à ce monsieur donc 800 euros d'amende. Eh bien, si ce n'est pas une attaque de la libre opinion et de la libre expression dans notre pays, eh bien, je ne sais pas de quoi il s'agit. Voilà.
C'est pour enflouer les caisses de l'État qui...
Et oui, ah, voilà,
qui le pauvre qui ministre.
Non, mais il y a une très très belle chanson de Juliette Gréco qui s'appelle Maréchal, nous revoilà.
Ouais.
Et je voudrais savoir à combien de milliers d'euros d'amende Juliette Gréco va être condamnée pour chanter Maréchal, nous revoilà. Nous, les petits-enfants de France. Car j'ai l'impression que tes biscuits vitaminés nous ont fait beaucoup de bien, cher maréchal. Et c'est une chanson absolument formidable. Et combien ça va lui valoir d'amende pour avoir chanté ça ? Je veux dire qu'aujourd'hui, on a régressé même 200 ans en arrière, y compris de la démocratie américaine, où la liberté de parole et d'expression est la base élémentaire de la fondation d'une démocratie bourgeoise.
Mourir à 16 ans, vous êtes sans doute au courant, un garçon de 16 ans s'est pendu dans sa cellule à mes yeux. Mes yeux, c'est le premier établissement pénitentiaire pour mineurs qui a ouvert en France l'an passé. Donc il avait 16 ans, il avait été incarcéré le 17 décembre et s'est pendu dans sa cellule. Une semaine après son arrivée, le garçon avait déjà essayé. Il s'était démis l'épaule en tombant dans sa tentative. Bien sûr, le suicide a été caché tout le week-end aux autres détenus pour éviter une explosion. Alors devant cet événement, l'administration bafouille un peu, quoi. Comment dire, Ah oui, le directeur régional adjoint de l'administration pénitentiaire, lui, dit voilà, nous sommes dans une expérimentation qui change beaucoup le rapport au lieu, aux règles, et les EPM, pour ces jeunes, présentent des espaces plus ouverts, moins contenants, cela peut les déstabiliser. Ce sont des mineurs qui ont besoin de canaliser leur sentiment d'insécurité. Hein ? Ce qu'il oublie de dire, quand même, c'est que depuis la création du... depuis l'ouverture de ce centre, il se passe de drôles de choses. C'est-à-dire qu'au niveau du personnel, déjà, il y a une énorme augmentation des congés de maladie et de demandes de mutation. Le taux d'absentéisme est assez élevé. Et puis surtout, il y a beaucoup de passages à l'acte qui ont précédé le suicide du jeune. Et là, c'est impardonnable. Parce que des passages à l'acte qui ne sont pas suivis de réactions, qui ne sont pas pris en compte, tout simplement, pour la conduite de l'établissement, ça veut dire que ces gens-là sont responsables. Et les plus responsables, ce sont ceux qui ont institué ces établissements pénitentiaires pour mineurs, qui sont une véritable, qui sont des mouroirs. Ils constatent. Alors ceux qui sont un peu en dehors, par exemple comme les magistrats, ils disent, c'est un mélange explosif. Hein. Des mineurs qui ne bronchaient pas en maison d'arrêt, quand ils sont placés dans ces centres-là, ils deviennent des caïds. Donc, on est bien dans cette spirale. Qui concerne aussi ce dont on se rend compte en prison, où on s'étonne que les gens deviennent violents. Mais là, c'est un jeune de 16 ans, et que lui, il n'a pas supporté. Voilà.
La prison tue. Ça, on le sait que la prison tue. Elle tue chaque année, et depuis toujours, et sous tous les régimes, un très grand nombre de gens. Elle tue parce qu'elle pousse les gens au désespoir, parce qu'elle les annihile et les dépersonnalise, d'une part, et elle tue aussi parce qu'elle refuse les soins. Et j'ai un mari qui est mort en prison, tout simplement d'une maladie qu'il a prise en prison, et parce que les matons dormaient, voilà, au lieu de venir le soigner. La prison tue, et les gens se suicident en tôle. Je ne peux pas dire, je ne sais pas si c'est un par jour, ou deux, ou trois, il y a des chiffres, l'Observatoire international des prisons les a. Elle tue, elle a toujours tué, et on a toujours su les causes de ces meurtres, et on n'a jamais rien fait contre ces assassinats délibérés. Voilà.
C'est sur ces paroles qu'on va vous passer la parole à l'émission suivante. On vous donne rendez-vous donc dans, si possible, demain soir, samedi soir, ou sinon dans 15 jours à Chaïra. À Chaïra.
Je vous dis bonsoir.
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 Bonsoir. À la prochaine. Pas tout à fait.
Cigaretto s'è incarvato, fuma dall'albo democrato, lo peutimento codesato, e lo paura che parla pauto, lo ministeri di che operaire, e poi lo pietà fenestraero, e lo pelan santo di l'aere, né Dio né me. Lo fardeo blave con empaio, come un matau ve la gentiallo, che cagio un freddo scila l'auso, che rogio dei petalado, che l'avvocata l'ha maletto, l'uovo c'è butto lo veletto per una gremma de poeta ne deo di metre che obo che c'è di giustizia e insieme rondati non ci blessi per la mupla lo sacrifici e lo sciopino di servizi che lo brucia di qualche gaito lo che lo suscitare vetto pra morgan sauge di l'orvetto ne deo di metre che la parola di Vanzeli che fa il pregato lo gemmeffi e butto il loro orcevello della nobiltà e stile che lo credato c'è un rucetto che lo parola del profeta io lo ripeto e voi sciovetto ne deo ni metre ne deo ni metre. Ni drapeau, ni frontière, ni juge, ni censeur. De Toulouse à Nijni Novgorod, maledetto, maledetto. Maledetto veleo, ma Idio, li mettere, Idio, li mettere.